Les premières observations des équipes de recherche engagées avec le centre Alain Savary, travail coordonné par Patrick Rayoux. Donc, vous le savez, Patrick Rayoux est professeur en sciences de l'éducation à Paris 8 et il travaille plus particulièrement sur l'évolution des formes scolaires et également les transformations du métier d'enseignant.
Merci, bonjour. Je savais que j'étais dans les nominés, mais j'ai tapé au dernier moment. Voilà, donc je vais essayer d'être bref, hein, parce que nous sommes un petit peu en retard sur l'horaire et que de toute façon, il ne s'agit que d'introduire à ce qui va suivre. Les équipes qui se sont réunies pour travailler sur ce projet, je crois, développe un type de travail qui est très complémentaire de celui qui vient d'être proposé. Et je crois d'ailleurs, bon, pour nous, c'est assez excitant de pouvoir croiser des méthodologies. Cette recherche-là, je l'appellerai, c'est une dénomination assez convenue, c'est une recherche dite collaborative dans laquelle les chercheurs qui ont proposé ce projet essaient de travailler en lien direct avec des acteurs de terrain, voilà, avec l'idée qui a été développée au début, dans laquelle je me reconnais assez, que les recherches, après tout, peuvent être utiles, qui est quelque chose qui n'est pas si évident, mais à quoi nous croyons beaucoup. Alors ça a un prix pour nous qui est d'arriver à articuler deux aspects, c'est qu'à la fois nous voulons faire un travail universitaire que j'appelle ici de classique, c'est-à-dire un travail qui va donner lieu à des communications, à des publications, etc., parce que nous tenons très fortement à ne pas faire une recherche qui serait au rabais dans ce type de choses, mais en même temps c'est une recherche qui se veut rapprochée, qui est une autre manière d'appeler quelque chose qu'on ne veut pas appeler recherche-action, parce qu'il ne s'agit pas de prouver à tout prix l'efficacité de ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs nous-mêmes ne sommes pas impliqués directement dans cette affaire-là, avec une modalité d'évaluation qui est sans doute un peu distincte de la précédente, au sens où nous, plutôt que d'évaluer le dispositif en lui-même, qui est d'ailleurs une opération tout à fait légitime, nous essayons, là où nous sommes, d'aider les acteurs à construire leur évaluation. Et vous verrez peut-être que dans les exposés qui suivront, nous envisageons quelques critères qui permettent que nous leur proposons en tout cas et que nous voulons travailler avec eux pour qu'ils évaluent eux-mêmes leur propre travail. Alors, dans certains endroits, il y a des enseignants qui sont associés à l'Institut français de l'éducation, qui sont associés, je veux dire, de façon institutionnelle et pas simplement comme personnels qui sont normalement enquêtés, je dirais. Certains sont d'ailleurs ici et vous aurez l'occasion de les entendre. L'équipe, alors le générique, je vous le donne, mais comme il a déjà été annoncé, il figure simplement pour que tout le monde soit sur le tableau d'honneur. Donc je n'insiste pas, ils ont été présentés. Peut-être deux caractéristiques. Vous voyez que les universités, les centres de recherche qui sont présentés sont très larges. Il y en a sur l'ensemble du territoire national. Une chose dont nous sommes assez heureux, c'est qu'il y a dans cette équipe des gens qui sont déjà un peu chenus dans le métier, dont je fais partie, et des doctorants, des masterants. Ça nous paraît, ça aussi, un aspect de mixité tout à fait intéressant, en plus de ce que je disais tout à l'heure concernant les enseignants associés à l'Institut français de l'éducation. Alors, voici les sites qui sont concernés. Il en a déjà été question tout à l'heure. C'est délibérément que je ne mets pas en correspondance les équipes de recherche et les sites, puisque nous sommes devant un cas de figure un peu délicat et de manière, je crois, tout à fait simple, je vais vous exposer nos difficultés. Notre difficulté, c'est que cette recherche collaborative implique des acteurs de terrain qui nous font l'immense privilège de nous donner leur parole, de nous dire ce qu'ils font, de nous faire part d'un certain nombre de difficultés, de raisons d'être fiers de ce qu'ils font, d'inquiétudes, d'impasses, etc., etc. Et qu'un des aspects de la déontologie de la recherche, c'est évidemment de ne pas mettre ces acteurs en difficulté, surtout qu'il y a aujourd'hui une combinaison à la fois de, il y a parfois leur supérieur hiérarchique, il y a des gens de la DGESCO, etc. Donc la difficulté est quand même tout à fait réelle de ne pas les fragiliser. Donc évidemment, dans l'ensemble des exposés, vous arriverez bien à faire la relation entre qui cherche à quel endroit et qui fait quoi, mais nous nous interdisons de donner les noms de ses collègues et d'établir nous-mêmes la bijection qui pourrait vous faire accéder tout de suite à l'endroit dans lequel ils exercent. Voilà. Six équipes, je crois, ou sept équipes de recherche, qui se sont réunies sur cette affaire-là, évidemment ont des modalités d'approche qui ne sont pas les mêmes, sont confrontées à des terrains qui ne sont pas les mêmes. Néanmoins, nous avons dégagé quelques indicateurs sur lesquels nous nous sommes engagés à travailler en commun. Indicateurs qui d'ailleurs peuvent être aussi négociés localement pour savoir si les équipes sont intéressées par cette manière d'analyser leur propre situation, de privilégier tel ou tel. Ça, je pense que c'est quelque chose qui se négocie au cas par cas. Je vais vous faire un très rapide commentaire de ces thématiques sur lesquelles nous travaillons. Alors, il y a bien évidemment la question du sens même de qu'est-ce que c'est l'excellence, dont nous voyons bien que ça met les équipes à l'épreuve, hein, y compris la commission, les commissions qui recrutent les élèves. L'excellence, c'est aujourd'hui une notion qui est très fortement utilisée. Elle a envahi l'université. Il y a des laboratoires, il y a des équipements, il y a des initiatives d'excellence. Que mettons là-dessous et que mettons là-dessous lorsqu'il s'agit de ces élèves et d'élèves de collège et d'élèves de lycée, etc. C'est une dimension qui nous paraît devoir être particulièrement travaillée. Évidemment, cette dimension est tout à fait reliée à la suivante, c'est-à-dire comment va-t-on recruter des élèves en fonction de cette représentation de l'excellence ? Il nous semble d'ores et déjà qu'il y a des manières très diverses, pas forcément contradictoires, mais en tout cas diverses de recruter les élèves selon les académies. Le troisième poste qui nous paraît intéressant, c'est la question des modalités pédagogiques qui sont retenues dans ces établissements. Ne serait-ce que parce que il y a, alors à la fois évidemment, il y a différents degrés d'enseignement, mais la question du passage de l'établissement à l'internat est une question tout à fait importante qui va mettre en jeu des modalités pédagogiques sans doute différentes. Et il nous intéresse de voir comment ce va-et-vient est organisé entre l'établissement je veux dire d'origine, en tout cas d'insertion des élèves, l'établissement scolaire à proprement parler, et l'internat qui les accueille. Le quatrième point, ce qui d'ailleurs renvoie assez largement à ce que je viens de dire, c'est la manière dont le système est organisé, c'est-à-dire fondamentalement la question de la circulation des élèves entre ces deux instances d'accueil, mais aussi un peu aussi des questions relatives à l'organigramme. Qui fait quoi? Qui pilote dans ces établissements? Quel est le mode d'interaction ou pas entre les différents personnels, etc. Dispositifs dérogatoires ont entre autres particularités, selon nous, qu'ils changent la professionnalité des acteurs adultes qui y enseignent ou qu'ils s'appuient sur des professionnalités déjà en changement. Il y a là un enjeu qui est tout à fait important pour les gens qui s'intéressent à la professionnalité enseignante aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, les internats d'excellence, comme structure dérogatoire, mais il y en a d'autres dont nous parlerons demain avec Philippot, mais sont des points d'observation tout à fait particuliers, intéressants et passionnants, selon nous, de cette évolution des professionnalités qui préfigure peut-être des évolutions de professionnalités plus massives dans le monde enseignant d'aujourd'hui et de demain. Un aspect qui nous paraît tout à fait important aussi, c'est la question de la communication et du rapport avec les familles, puisque ces familles-là se trouvent dans une situation assez particulière. Elles ont d'une certaine manière délégué une autorité à l'internat. Il y a des choses qui sont pas si évidentes que ça, parce qu'à la fois on souhaite dans les internats les associer, en même temps elles sont pas associées elles ont des difficultés tout simplement géographiques pour être près des établissements. Donc il y a là quelque chose qui nous paraît tout à fait particulier et devoir être regardé. Quelles sont les manières de communiquer avec ces familles qui ne sont pas les manières plus classiques liées à la proximité ordinaire entre l'établissement et le lieu de résidence. Spécificité du dispositif. C'est quelque chose qui renvoie aussi un peu, qui émarge aussi, qui est un peu séquent avec la question de l'organisation du système. C'est-à-dire qu'est-ce qui tient à l'internat d'excellence et qui n'existe pas ailleurs, et quel est ce que je crois que nos collègues de l'école d'économie veulent aussi mesurer en termes d'effet internat d'excellence. Nous, d'un point de vue plus qualitatif, nous essayons de décrire ces spécificités. Et le dernier point, c'est la question des trajectoires d'élèves, qui est un autre poste d'observation. C'est une manière, là aussi, je crois, qualitative de compléter, de s'articuler avec le projet de recherche et la réalité de recherche qui a déjà été présentée. Il nous paraît intéressant de regarder ce que sont les élèves qui sont arrivés et éventuellement, sur une durée même relativement brève, de voir les types de réaménagement identitaire que ça suggérait chez eux par rapport aux copains d'origine, par rapport aux groupes de pairs nouveaux dans lesquels ils sont enchâssés désormais, la manière dont ça va s'effilocher ou pas. Voilà, il y a un aspect nécessairement diachronique, si vous voulez, qui nous paraît devoir être pris en compte pour regarder tout ce dispositif. J'oubliais le dernier, emboîtement géographique et politique, parce que là, il y a un point de vue un peu plus macro, mais nous voyons que selon les orientations politiques, hein, au sens global de l'académie, de la région, etc. Il y a des effets sans doute très très certains sur la façon dont ces dispositifs se configurent et évoluent dans le temps. Nos résultats sont partiels et provisoires, hein. Et c'est vraiment pas une modestie de chercheur que de dire ça. C'est vrai parce que nous avons pris pied dans les internats il y a depuis fort peu de temps. Ce contrat de confiance auquel je faisais allusion tout à l'heure, il est réel. Voilà pourquoi nous allons nous tenir de manière un peu paradoxale à des généralités, alors que nous pourrions parler de cas spécifiques. Mais c'est un peu lié à la contrainte de ces deux journées de formation et au moment où elles interviennent. Si nous étions depuis un peu plus longtemps que ça sur le terrain, nous serions capables de dire des choses, non pas de manière euphémisée et trafiquée, mais de manière plus globale, qui permettrait de passer par-dessus les cas particuliers. Donc la démarche que nous adoptons, c'est la suivante. Nous partons d'une immersion dans des contextes, mais nous essayons de trouver la généralité qu'il y a. Et c'est, je crois, à ce niveau-là que nous allons essayer de nous adresser à vous pendant ces deux jours, avec évidemment comme finalité de recontextualiser les choses que nous aurons comprises d'un point de vue un peu général pour les renvoyer aux acteurs et être capables nous-mêmes de mieux analyser les choses localement. Les trois points qui vont être présentés ce matin, cette fin de matinée, vont concerner le recrutement des élèves. Alors voilà, c'est une sélection, si vous voulez, parmi les sept indicateurs que j'ai listés devant vous. Les trois points qui sont sélectionnés, c'est le recrutement des élèves et le sens de l'excellence, donc il va faire l'objet de la première intervention, des aspects relatifs à la professionnalité enseignante, et enfin, des caractéristiques de la vie de l'internat et du rapport à l'environnement habituel. Voilà, je me sauve immédiatement pour laisser la place aux gens qui vont dire des choses intéressantes.
Voilà, donc sur la première présentation, donc elle sera faite par Patrick, Stéphanie et moi-même. Donc les deux points présentés, le sens de l'excellence et la professionnalité des enseignants. Ce travail est mené sous la direction d'Anne Giraud, que j'excuse aujourd'hui, parce qu'elle est retenue par la Commission nationale des universités. Donc des rencontres et entretiens exploratoires effectués sur site. Vous avez vu déjà ce matin à travers les propos et le bilan d'étape présenté par Fabienne Bensa qu'il existe une grande variété de situations, mais aussi des éléments de comparaison et qui nous permettent donc de repérer des clés de compréhension, de première compréhension des observations réalisées. Et Patrick et moi, donc, nous allons aborder deux de ces clés, donc le sens de l'excellence et la professionnalité des enseignants. Alors, concernant le sens de l'excellence, un certain nombre de questions se posent. Est-ce que l'on parle de mérite? Est-ce que l'on parle d'excellence? Est-ce que l'on parle de réussite? Et déjà, chacun de ces termes pourrait être questionné. Est-ce qu'il s'agit d'aider les élèves en difficulté à progresser? Est-ce qu'il s'agit de favoriser leur épanouissement personnel, leur projet personnel? Ou est-ce qu'en autrement, ou est-ce qu'il s'agit également de faciliter leur accès à l'université et pourquoi pas aux grandes écoles? Ces questions se retrouvent de manière prégnante dans les politiques menées dans les établissements et les sites concernés et reflètent aussi l'évolution des orientations institutionnelles en la matière. On l'a entendu ce matin. Le sens de l'excellence nous paraît un concept en évolution et ce matin, j'étais un peu confortée par la présentation de Madame Fabienne Bensa, qui quelque part valide, si je puis dire, la première observation que nous avons faite, dans la mesure où il nous semble que sur les sites ou sur certains sites, la première orientation qui apparaît du concept du sens donné au concept d'excellence, c'est bien une inscription initiale dans le plan Espoir banlieue. Ce matin, les choses ont été rappelées. Je vais quand même les redonner. Peut-être que c'est l'ancien professeur d'histoire qui a besoin de contextualiser, de redonner un peu ce sens dans le temps, dans la chronologie. Mais la première orientation donnée à l'excellence semble s'inscrire effectivement dans le prolongement de la charte pour l'égalité des chances dans l'accès aux formations d'excellence. Cette charte est elle-même fondatrice des cordées de réussite, lancée dans le cadre du plan Espoir banlieue en 2008. Là, on est entre 2005 et 2008. Et dans le cadre de ce plan Espoir banlieue, il s'agit bien de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur de jeunes qui, je cite, en raison de leur origine sociale ou territoriale, brident leur ambition scolaire. À ce moment-là, les actions proposées doivent permettre à ces jeunes de s'engager avec succès dans des formations longues. Et d'ailleurs, cela a été rappelé, le BO que vous connaissez, bien sûr, de juillet 2010, de juillet dernier, portant sur les internats d'excellence, rappelle que ceux-ci s'inscrivent dans la dynamique Espoir banlieue. On peut constater cette première orientation, cette orientation liée à l'esprit des cordées de réussite, sur le terrain, à partir des sollicitations des personnels éducatifs, dans l'encadrement du travail scolaire et l'accompagnement individualisé des élèves internes, dans le temps d'études, par exemple. Il sera, par exemple, question d'apprendre aux élèves, aux internes, à travailler plus vite, à se caler davantage, à ce qui se fait dans les classes préparatoires. Certains élèves eux-mêmes, d'ailleurs, demandent à approfondir leurs compétences, avec un souci, je cite, d'atteindre la perfection, pour certains, afin d'intégrer, pourquoi pas, des classes préparatoires aux grandes écoles et dans l'espoir de devenir ingénieur. Cette orientation scolaire, relativement nette, se double d'un volet éducatif visant à développer chez les jeunes une attitude qu'on va appeler une attitude digne de l'excellence, un comportement qu'on va qualifier d'irréprochable, de manière à ce que ces internes, ces élèves, puissent à un moment donné se présenter comme des ambassadeurs des internats d'excellence. À partir de cette première orientation, on voit également une inflexion se développer qui n'annule pas la première orientation, mais qui se présente de manière de plus en plus forte et qui apparaît sur le terrain dans les projets, nous semble-t-il, en lien avec les orientations institutionnelles. Une propension à la rhétorique de l'excellence dans tous les champs possibles, économiques, politiques, sportifs, scientifiques, quotidiens, c'est excellent. Cette propension-là en fait un concept en fait flou, nous semble-t-il, au contour incertain, mais qui de ce fait, contour qui finalement font de ce concept un concept suffisamment souple et susceptible de s'adapter aux évolutions diverses et aux situations les plus variées. C'est ainsi qu'en cours d'année, on peut remarquer sur certains sites que, à la première orientation esprit cordé de réussite, d'autres préoccupations. On parlera ainsi volontiers de réussite scolaire. Elle s'apparente alors à une offre pédagogique et éducative qui semble s'adapter aux réalités perçues dans le cadre de l'avancée de l'année scolaire, aux premiers résultats scolaires des élèves, à l'orientation qui se dessine et qui maintenant est arrêtée. Réussite scolaire, donc première préoccupation qui apparaît plus fortement en cours d'année. Deuxième inflexion, peut-être le sens accordé aux activités culturelles et sportives proposées. En début d'année, les activités sportives et culturelles proposées étaient inscrites de manière obligatoire dans le temps non scolaire des élèves internes. Et petit à petit, en cours d'année, on peut voir ces activités s'inscrire dans un cadre plus précis. Elles sont présentées alors comme une opportunité d'ouverture culturelle, non plus imposée, mais ouverte, choisie par les jeunes à travers des menus, des parcours exploratoires, permettant à ces jeunes de découvrir de nouveaux modes d'expression culturelle, des nouveaux modes de communication, et permettant également par ce libre choix relatif mais réel à ces jeunes de développer leur autonomie. Troisième inflexion qui peut apparaître également, celle de l'épanouissement personnel recherché de manière de plus en plus prégnante à travers l'ensemble des actions menées sur le terrain. Réussite scolaire, ouverture culturelle, recherche de l'autonomie, de l'épanouissement personnel des jeunes. Cette évolution favorisé par le flou dont je parlais tout à l'heure, qui caractérise le concept d'excellence, reflète également, nous semble-t-il, l'inflexion qui apparaît dans les prescriptions institutionnelles. Il est notamment fait référence à la recherche de la réussite scolaire, au développement de l'esprit d'initiative, à la recherche de l'autonomie et de la créativité des élèves, ce qui ne s'oppose pas à l'esprit cordé de réussite dont je parlais il y a un instant. Cela suppose aussi, les premières observations proposées ici entraînent aussi un certain nombre de questionnements en tension entre la satisfaction affichée par les élèves internes, nette, et leur besoin de souffler, on l'entendait aussi ce matin. Exemple. À la question posée aux internes par les enseignants dédiés, question type, quels sont les points positifs pour vous, pour toi, dans la vie à l'internat? Réponse type, reflet de la majorité, la grande majorité des écrits. Point positif, réponse, tout. À la question, quels sont les points négatifs? Réponse, reflet de l'ensemble des écrits. On manque de moments pour souffler, cela a été dit ce matin. On manque de moments solitaires pour rien faire, se vider la tête. Ces éléments sont peut-être révélateurs du balancement qui s'opère à l'adolescence entre désir d'intégration à un groupe, des groupes de pairs, des groupes d'une part, et le besoin d'autonomie, de liberté d'autre part. Sur ce dernier point, il s'agit bien sûr pour les jeunes, bien sûr de conquérir des espaces de liberté au milieu d'espaces contraints, des besoins de trouver des temps pour s'évader, pour rêver, pour s'isoler. Deuxième questionnement en tension, entre la recherche d'un cadre rassurant pour les familles et symboliquement peut-être lourd à porter pour les enfants, les adolescents. On ne peut que constater la forte demande sociale des familles, les nombreux appels des parents à la recherche de place à l'internat d'excellence pour leurs enfants. Une demande qui dépasse même le cadre académique du terrain, des terrains sur lesquels nous travaillons ensemble. À tel point qu'on a entendu parler du fantasme de l'internat d'excellence pour les familles. Côté élèves, d'ailleurs, on constate également une forte demande de recherche d'un cadre qui serait un cadre rassurant, structurant, protecteur. Et ces demandes renvoient aux observations réalisées par M. Dominique Glassman dans son rapport à la ADEP, intitulé « Les usages sociaux de l'internat scolaire ». On peut y lire, observer que tant aux yeux des parents que des élèves interrogés, l'internat est vécu avant tout comme un lieu susceptible de protéger l'enfant, de lui permettre de grandir. Et en conclusion, la recherche souligne la demande d'institution, je cite, entre guillemets, la demande d'institution des familles, et je cite aussi, avec l'autorisation de M. Glassman, la demande des familles de recherche de relais éducatifs, des parents. Ce regard porté sur l'internat comme un lieu ressource susceptible de protéger les jeunes, les enfants, les adolescents revêt une dimension particulière avec le concept d'excellence. Les familles seraient alors, et bien sûr, à la recherche de l'excellence pour encadrer et protéger leurs enfants. Et c'est d'ailleurs aussi ce que semblent dire les internes quand ils disent, je cite une phrase type, « Ici c'est dur, mais c'est pour mon avenir et j'ai de la chance. » C'est une phrase aussi emblématique des propos tenus, une nouvelle ambivalence. J'ai de la chance, et c'est dur. Et le concept d'excellence continue d'ailleurs à interroger un certain nombre d'acteurs professionnels pour lesquels ce peut être un mot lourd à porter, même si c'est une chance. Et enfin, dernier questionnement, entre les bienfaits de l'aide apportée et éventuellement la baisse d'estime de soi pour des élèves qui seraient en difficulté. Sur les terrains de travail actuels, la posture d'excellence semble porter ses fruits. Les codes de bonne conduite, d'expression, d'échange proposés par l'équipe éducative étant pas être intégrés par les élèves, on relève très peu de conflits dans l'internat. Trois ou quatre situations, je vais juste terminer si vous voulez bien, dans l'internat sur lequel nous sommes. Trois ou quatre situations reviennent de manière récurrente dans les propos des uns et des autres. Et il s'agit avant tout de situations de confrontation à l'autorité adulte pour lesquelles les jeunes filles ont besoin d'affirmer leur identité adolescente. Et c'est bien là la preuve qu'il y a une très grande diversité de situations d'un internat à l'autre. Il faudrait cependant questionner à plus long terme les trajectoires des élèves, notamment les trajectoires suivies par les élèves en difficulté, afin d'observer si ces difficultés n'engendreraient pas à terme une éventuelle perte d'estime de soi pour ceux à qui on a donné une chance, et quelle chance ? L'excellence, et qui l'auraient perdue. Une restitution au terrain est programmée pour le 17 juin afin d'associer au mieux les acteurs concernés à ce travail de recherche.
Bonjour. À ce stade de la recherche sur le site, nous pouvons distinguer, au niveau de la professionnalité enseignante, quatre marqueurs de l'émergence d'une nouvelle professionnalité chez les enseignants dédiés à l'internat d'excellence. Mais avant de vous les présenter, je vais revenir sur quelques éléments de la recherche qui nous paraissent essentiels à leur présentation et à leur perception. Alors, cet internat d'excellence, un étage réservé à l'internat d'excellence, 30 élèves, un proviseur adjoint, directeur de l'internat d'excellence, 5 professeurs dédiés, 6 adjoints d'enseignement. À propos des enseignants, ils sont au nombre de 5 volontaires, ont tous été recrutés sur profil et à temps complet. Ils sont totalement dédiés à l'internat d'excellence. Ils interviennent en fin de journée de 17h30 à 21h30. Dans des locaux qui sont réservés à l'internat d'excellence, dans deux types d'activités, l'aide aux devoirs et l'animation d'ateliers socio-culturels, et culturels et sportifs, pardonnez-moi. Quelques éléments sur le recrutement de ces enseignants. La lecture des données recueillies dans les profils de recrutement qui ont été élaborés au niveau institutionnel, ainsi que les éléments de cadrage de l'activité enseignante élaborés par la direction de l'internat, annonce une mission nouvelle. La professionnalité qui se dessine est marquée par un élargissement de l'activité professionnelle. C'est-à-dire qu'à l'expert disciplinaire va se rajouter l'éducateur, voire l'accompagnateur. Le professeur doit bien évidemment maîtriser sa discipline, mais ce qui est en jeu relève de sa capacité à instaurer un rapport de proximité avec l'élève, et de travailler en codisciplinarité, voire interdisciplinarité. Leurs activités sont résolument tournées vers l'accompagnement avec une approche interdisciplinaire. Les professeurs construisent cet accompagnement avec un double enjeu. Le premier, l'entrée dans l'étude de l'élève. Et le deuxième, l'ajustement de l'activité professionnelle à la situation éducative des élèves. Je vais maintenant vous présenter les quatre marqueurs. Le premier, l'engagement professionnel des acteurs. On peut dire que leur engagement professionnel est lié à une expérience antérieure. En effet, 4 enseignants sur 5 s'inscrivent dans une dynamique de projets innovants et d'activités non routinières. À leur sujet, on peut considérer que l'expérience a été formatrice, et la continuité de l'expérience est recherchée par tous. Ils ont le désir spécifique d'exercer dans ce dispositif, d'une part car la pratique enseignante dite courante est généralement perçue comme routinière, et d'autre part, ils veulent ouvrir leur horizon professionnel en cherchant des expériences enrichissantes à mettre en œuvre auprès de leurs élèves. On peut citer quelques exemples. Codisciplinarité, transdisciplinarité, co-intervention, recherche de partenariats extérieurs et conception de projets. Ainsi, ils peuvent se dégager de la forme magistrale et de ce qu'ils appellent la pesanteur du métier. En conclusion, pour ce marqueur, on peut dire que leur action n'est plus seulement fondée sur la transmission des savoirs, mais elle est fortement liée à des enjeux d'autonomisation et des enjeux d'individualisation. Je vais maintenant vous présenter le deuxième marqueur, la conception d'un métier en 4 points. Le premier point est que, comme dans beaucoup d'établissements scolaires, les enseignants dédiés sont dans un rapport d'ouverture et d'adaptation aux événements imprévus. C'est-à-dire qu'ils acceptent de travailler en faisant face aux événements qui font leur quotidien. La deuxième idée est que les enseignants accordent à la liberté pédagogique une valeur particulière. Pour eux, cette liberté se situe entre créativité d'une part et partage d'une expérience professionnelle d'autre part. Le troisième point est revenu souvent dans leurs propos, c'est la liberté d'action face au programme. Ils nous ont ainsi montré leur capacité d'ajustement, notamment dans la prise en compte des besoins des élèves. Le quatrième et dernier point est que les enseignants nous montrent la nécessité de travailler de façon collégiale à différents niveaux, au niveau de la conception, au niveau de l'animation et au niveau du suivi quotidien des élèves. Nous allons maintenant passer au troisième et quatrième marqueur. Je ne vous en dirai que quelques mots, car ils feront l'objet d'un développement plus important dans la deuxième année de notre recherche. L'accompagnement éducatif. Les cinq enseignants réfutent tous l'idée d'être perçus comme un professeur surnuméraire ou d'un doublon disciplinaire. Ils semblent préférer vouloir tenir une posture de tiers éducatif. D'ailleurs, ils en donnent eux-mêmes une définition qu'ils partagent. Je vous la cite. Être proche des élèves en restant vigilant sur les exigences sociales et scolaires. Cette posture leur permet le travail de remédiation. Ils sont attentifs au savoir-être et à l'approche globale des élèves. Le dernier marqueur se situe au niveau des interfaces professionnelles. On peut dire qu'à l'heure actuelle, les interfaces existent et fonctionnent grâce à la volonté de la majeure partie des acteurs. On peut citer quelques exemples. L'équipe des professeurs dédiés se réunit très souvent en fin de journée pour faire le point de leur travail. Des réunions entre la direction de l'internat d'excellence et les professeurs dédiés sont régulières, et programmées administrativement. Et les professeurs dédiés participent à tous les conseils de classe de leurs élèves. Après les quatre marqueurs, nous en venons maintenant au questionnement. Il se porte sur des objectifs à atteindre pour la prochaine année de recherche et se situe principalement au niveau des deux derniers marqueurs déjà cités. Des questions que nous allons nous poser pour poursuivre cette action. Au niveau de l'accompagnement éducatif, quelle est la nature de l'accompagnement éducatif? Faut-il donner des priorités? Comment approfondir les méthodes de travail déjà engagées auprès des élèves? Comment articuler la prise en charge des besoins des élèves avec le projet éducatif? Et quelle différence entre l'accompagnement du professeur dédié et celui du professeur du lycée, et de la même manière du professeur dédié et celui de l'adjoint d'éducation? Un questionnement au niveau des interfaces professionnelles qui me paraît très très important. Quelle structuration donner de la relation avec les enseignants du lycée? Je vous remercie.
Donc, bonjour, moi je suis Laurent Lesquarch, donc je suis du laboratoire civique de l'Université de Rouen. Et donc je vais parler au nom de notre petite équipe qui est constituée donc également avec Richard Witorski et Laurent Connefroy, où à Rouen nous travaillons beaucoup sur les questions de professionnalisation et de développement professionnel. Et définis rapidement, ce qui nous intéresse, c'est voir en quoi des dispositifs se jouent dans l'attribution de compétences par des tiers ou dans l'auto-attribution de compétences dans le cas du développement professionnel. Donc c'est par rapport à cette grille-là que nous on interroge un peu le dispositif internat d'excellence, avec en fait actuellement un questionnement qui pourrait se résumer comme ça, c'est-à-dire en quoi ce nouveau dispositif pourrait-il induire des nouvelles professionnalités? Et nous avons, nous, anticipé quatre types d'intervenants qui pourraient être concernés. Les enseignants, les personnels de direction, les personnels de vie scolaire et aussi plus globalement tout ce qu'on pourrait appeler les accompagnateurs, même si ce terme est d'un flou générique relativement problématique, parce qu'en fait sous le terme d'accompagnateur on ne sait pas ce qu'on met à ce jour. Alors là je vais juste développer nos réflexions autour des enseignants, de la vie scolaire, des accompagnateurs et un tout petit peu les personnels de direction au stade de l'enquête. Bon, déjà pour les enseignants, il nous semble, nous, qu'il faut bien distinguer les dispositifs en fonction de leur logique. Et si là, ce qui vous a été présenté était avec des dispositifs d'enseignants dédiés, c'est pas du tout le cas de tous les internats d'excellence. Et il nous semble que ça change considérablement la problématique. Donc certains établissements, il y a eu un recrutement sur profil, et puis dans beaucoup d'autres, finalement, les enseignants étaient déjà là dans l'établissement et ne sont pas forcément volontaires pour le dispositif. Il leur est imposé de l'extérieur. Donc, d'une certaine manière, pour nous, c'est un élément important. Alors, nos constats sont les suivants. C'est que certains enseignants sont investis dans le dispositif, d'autres pas. Et si on regarde les actions en fonction de ce critère, je pourrais dire que pour les enseignants non investis, il y a très très peu de changements de pratique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on assiste à une juxtaposition du dispositif d'encadrement à l'internat, qui se fait en extériorité complète par rapport aux actions scolaires quotidiennes. Et en fait, le dispositif d'enseignement, lui, continue à fonctionner comme avant, et sans prise en compte particulière de ses élèves, voilà, qui sont... Et c'est aussi un des objectifs du dispositif, d'où à quelque chose qui peut être aussi paradoxal de se demander si les enseignants vont changer de professionnalité, puisque l'objectif est également que ces élèves suivent une scolarité, entre guillemets, ordinaire. Donc pour les enseignants qui les ont en charge, il n'y a pas forcément matière à envisager des évolutions de pratiques pédagogiques. Et par contre, il y a un domaine dans lequel on peut repérer là une évolution et un besoin, c'est la question d'une demande de coordination organisationnelle. C'est-à-dire que les enseignants, même quand ils ne sont pas spécifiquement investis dans le dispositif, ressentent cependant le besoin d'une coordination avec les autres acteurs. Mais en termes de questions pédagogiques ou d'espace pédagogique, pour ces profils d'enseignants, nous, on repère pas de choses spécifiquement nouvelles. Par contre, il y a d'autres enseignants qui, eux, sont investis dans le dispositif. Et là, ce qui nous paraît, nous, le plus marquant, c'est en fait la question de l'investissement dans le registre de l'ouverture culturelle ou la pratique sportive. Parce que la grille que j'emploierais, là, c'est la question des espaces, et notamment avec une distinction entre ce qui serait l'éducation formelle, c'est-à-dire des moments de la forme scolaire, avec des objectifs d'acquisition explicites, mais aussi des dispositifs, notamment d'évaluation et de certification. Et puis, là, dans le cadre des internats, des activités qui sont menées, construites par des enseignants, mais dans des espaces temporels qui relèvent du non-formel. C'est-à-dire, il y a des objectifs éducatifs, mais on n'est pas dans un espace où il y aurait des évaluations, des certifications, et on est dans un espace qu'on connaît depuis longtemps sous le terme de loisirs éducatifs, dans un autre champ qui est celui de l'animation. Donc là, il nous semble que il y a pour les enseignants là quelque chose d'assez particulier, puisqu'il s'agit de transférer des compétences professionnelles du formel dans un espace non formel qui n'obéit pas aux mêmes logiques. Et avec des questions, ou à titre d'exemple, j'ai pu entendre des questions sur faut-il évaluer les activités artistiques quand elles sont faites dans le cadre du mercredi après-midi. Là, il me semble qu'on a des questionnements. Il va falloir que les enseignants se positionnent, puissent construire une autre forme de professionnalité pour des actions qui ne sont pas a priori du registre de leur formation initiale. Deuxième élément, c'est le développement des partenariats systématiques, qui va amener probablement, en tout cas dans ce qui peut être observé, un développement fort des logiques de pédagogie de projet, et qui, elle, là encore, s'inscrivent quand même globalement en contradiction avec la forme scolaire traditionnelle d'un enseignement transmissif. Donc là, dans cet espace-là, il nous semble qu'il peut y avoir aussi des questions de professionnalité nouvelles, mais spécifiquement pour les enseignants investis dans le dispositif. Donc, s'il y a deux questions vives pour nous à ce jour, c'est la construction des dispositifs pédagogiques dans le cadre non formel. Et la deuxième, ça serait l'entrée dans des démarches collaboratives, qu'on appelle dans l'éducation, que l'éducation nationale appelle de ses voeux depuis une vingtaine d'années, mais qui semble pas être un objectif particulièrement réussi depuis 20 ans. Donc, des démarches collaboratives à l'interne de l'établissement, mais aussi à l'externe. Deuxième type d'acteur, je fais vite parce que l'heure passe. Deuxième type d'acteur pour lequel il nous semble qu'il y a des enjeux là de développement professionnel très fort, ce sont les personnels de vie scolaire et les accompagnateurs. Alors, ce qui nous paraît assez particulier à ce dispositif, c'est que aujourd'hui la pression sur la réussite scolaire, qui globalement était essentiellement du registre des enseignants, se déplace sur les encadrants, puisqu'ils sont chargés d'une mission indirecte, voire même de directe quand on regarde l'aide aux devoirs, de favoriser la réussite scolaire des élèves. Autrement dit, il nous semble que la structure d'hébergement, tout son fonctionnement, d'une certaine manière, devient aussi un lieu qui serait évaluable au regard de la question de la réussite scolaire. Ce qui est relativement nouveau, puisque l'internat a été dans l'accompagnement ou les mêmes trucs. Mais on n'était pas chargé de la réussite scolaire. Et là, on peut se dire que sur les acteurs, ça peut rajouter des espaces de pratique, notamment du côté de l'accompagnement scolaire, de l'aide aux devoirs, des acquisitions scolaires, mais aussi, plus globalement, une forme de pression à la réussite qui va peut-être jouer sur l'ensemble du montage des relations sociales. Et donc, quand j'entendais tout à l'heure Anne-Marie parler du contrôle du temps, il nous semble que cette pression de la réussite scolaire sur les accompagnateurs peut conduire notamment à un contrôle énorme du temps pour une forme de rentabilité, notamment rentabilité de l'ouverture culturelle. Ce qui pourrait être un vrai problème si on peut estimer que ces lieux de vie collective ne deviennent que des lieux d'apprentissage, y compris sur le temps a priori non formel. Donc voilà, je développe pas, mais il nous semble que là, il y a quelque chose. Deuxième élément, c'est que ces acteurs se posent, eux, des questions nouvelles dans trois domaines pour nous, l'aide aux devoirs, dont le discours sur l'aide aux devoirs est très très fort, et une aide aux devoirs qui doit être efficace, l'accompagnement des enfants, et aussi la question de la relation aux familles. C'est-à-dire que on a des acteurs qui se retrouvent de fait comme dans un tiers-lieu éducatif en position de médiation entre les familles, les enseignants, et qui se retrouve chargé de ce rôle-là avec un problème, par contre, évidemment, qui est la question de la formation, des certifications et de la reconnaissance des compétences. Puisque les personnes qui se retrouvent dans ces positions d'accompagnateurs sont essentiellement sur des statuts, notamment, alors dans le dispositif qu'on étudie nous, d'assistants d'éducation, avec le problème de la formation de ce type de personnel. Un autre problème qu'on peut anticiper, c'est que si des pratiques se construisent, comment est-ce qu'elles vont pouvoir se pérenniser avec des personnels dont la pérennité de la participation au dispositif n'est absolument pas garantie. Vous savez comme moi la difficulté, la faible durée de vie des accompagnateurs ou des assistants. Donc là, il va se jouer quelque chose. C'est-à-dire peut-être des pratiques vont pouvoir se construire, mais en même temps, les dispositifs vont être confrontés à leur modélisation pour que ça puisse fonctionner, quels que soient les acteurs. Et puis, un dernier élément, moi j'ai entendu des débats assez intéressants sur, finalement, la compétence pour encadrer l'aide aux devoirs. Puisque l'aide aux devoirs devient clairement, explicitement, un moment d'apprentissage, se pose la question de la compétence pour l'encadrer. Et là encore, pour l'instant, on est globalement dans une forme d'improvisation généralisée là, sur cette question. Alors, nous, un autre élément de réflexion, nous, on est en train de se demander si dans cet espace-là, il n'y aurait pas une filiation, un transfert de pratiques d'autres champs, notamment celui où il y a une très grosse réflexion depuis 40 ans de la vie collective dans l'animation socioculturelle. Et ou alors s'il n'y a pas aussi des transferts de fonctionnement, de réflexion des internats classiques. Ou alors, et je me positionne, oui. Il me semble que aujourd'hui, on a plutôt l'impression que les acteurs reconstruisent des modalités de manière très très empirique, finalement en fonction dans une forme de tâtonnement permanent. Là où, en termes de formation, l'appropriation réelle des bases théoriques qui ont été construites dans d'autres espaces, qui ne sont pas les espaces enseignants, mais les espaces qui ont beaucoup réfléchi aux questions de l'impact éducatif d'une vie en collectivité, pourraient peut-être faire gagner du temps aux acteurs. C'est-à-dire à ne pas réinventer l'eau chaude en permanence et aussi à pouvoir s'appuyer sur le bilan de ce qui a pu être fait dans d'autres espaces. Bon, dernier élément, puis j'arrête de vous embêter, c'est au niveau des équipes de direction. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse d'une complexification de la tâche. Déjà avec la gestion des multiples partenariats, l'intégration notamment de ces critères de recrutement qui semble aussi avoir comme impact des logiques de financement, des logiques partenariales relativement nouvelles, et un rôle fort, en tout cas dans l'établissement que j'ai pu le plus fréquenter, le portage de l'innovation par rapport aux équipes, avec effectivement la gestion aussi dans des projets d'innovation d'équipes qui ne sont pas dans leur totalité porteuses du projet. Il nous semble que c'est pas quelque chose de si simple que ça à gérer. Alors, pour conclure, pour nous, le dispositif peut induire une redéfinition des positionnements de chacun. Avec un éventuel déplacement des missions, mission des enseignants, mission des accompagnateurs, mission des personnels vie scolaire, ou dans un modèle très classique, on aurait pu se dire que globalement les enseignants sont sur les apprentissages et enseignent, et la vie scolaire était sur, disons, l'accompagnement éducatif et l'encadrement éducatif. Ce dispositif peut rebattre les cartes dans une certaine mesure, avec des objectifs partagés par tous, mais qui par contre resterait hiérarchisé selon les types d'acteurs. Autrement dit, si l'accompagnement, les personnels d'accompagnement ont des objectifs d'acquisition scolaire, ceux-ci vont être dans un second plan par rapport à leur objectif d'accompagnement éducatif, d'accompagnement et d'encadrement. À l'inverse, les enseignants vont peut-être être amenés à, en plus de leurs objectifs d'acquisition scolaire, rentrer dans des objectifs plus globaux de socialisation ou d'ouverture culturelle. Donc bon, voilà nous à ce stade les questions que nous pose le dispositif, et elles sont nombreuses. Voilà.
Alors pour poursuivre sur les enjeux autour du recrutement des élèves en internat d'excellence, je vais essayer de faire court pour qu'on reste dans notre organisation du temps. Il s'agit bien, et bon, ça rejoint ce que les collègues ont dit précédemment, hein, de données de contextualisation et de premiers éléments d'analyse, mais qui sont en rien des éléments définitifs. Et là, je croiserai des retours qu'on a sur différents internats, pas sur un internat en particulier, mais voilà, plusieurs éléments sur cette question du recrutement des élèves, avec quand même un rappel, ça a été évoqué, mais je le remets pour tous, hein, sur le cadre de la circulaire qui vise un public particulier, avec l'internat d'excellence doit permettre à des collégiens et lycéens motivés ne bénéficiant pas d'un environnement propice aux études d'exprimer tout leur potentiel et de réaliser leur parcours scolaire correspondant. L'idée et l'enjeu étant là aussi d'illustrer le décalage qu'il peut y avoir et qui est assez logique, hein, entre la volonté prescrite et inscrite dans les circulaires et la manière avec laquelle non seulement les équipes gèrent l'accueil d'élèves et leur recrutement, mais plus largement aussi les académies, puisqu'on se rend compte que d'une académie à l'autre, les choses ne sont pas faites à l'identique. Il y a en effet des modalités de recrutement différenciées et on peut avoir quelques éléments qui permettent de situer ces différences d'un établissement à un autre, voire d'une académie à une autre. D'abord, dans les modes de communication pour informer les élèves de ces dispositifs-là, il y a des établissements qui sont particulièrement en pointe sur la communication avec des plans de communication externes assez travaillés, alors que d'autres s'appuient essentiellement sur des réseaux d'interconnaissances, d'interconnexions avec d'autres établissements qui réfèrent à des parcours de certains membres de l'équipe, qui réfèrent à des partenariats à l'échelle de l'académie. Dans tel et tel établissement, on invitera les chefs d'établissement ou la communauté éducative à présenter ces internats d'excellence, alors que dans d'autres, les moyens de mettre en avant cet internat seront beaucoup plus diffus, voire n'auront pas de communication spécifique. Et ce sera les familles qui prendront contact avec les établissements bien avant des collègues d'autres établissements. Donc on a vraiment des modes de communication assez variés sur la manière avec laquelle est envisagé le recrutement à l'échelle des différents établissements. Des modalités de recrutement différenciées aussi sur des points importants dans cette phase de recrutement, où on peut distinguer au moins trois éléments: l'examen des dossiers, les entretiens avec les élèves et des familles déjà présélectionnées, et la prise de décision finale de l'inscription ou non dans les internats. L'examen des dossiers, des équipes participent à l'examen de ces dossiers, alors que d'autres n'y participent absolument pas. Là, je confonds internat d'excellence et places labellisées, sachant qu'il y a des internats dans lesquels il n'y a que des places labellisées, hein, qui ne sont pas labellisées excellence, mais qui n'ont que des places labellisées excellence. Donc on a là des choses très différentes dans la manière avec laquelle l'examen des dossiers des élèves peut se faire, et qui évidemment est particulièrement pointé par un certain nombre d'équipes comme des difficultés supplémentaires, en particulier si cet examen n'est pas fait en lien avec les équipes. C'est-à-dire il y a un sentiment fort d'imposition des dossiers, là où l'équipe souhaiterait s'investir aussi dans le choix du recrutement de ses élèves. Les entretiens avec les élèves et leurs familles sont aussi faits de manière assez différenciée. On a différentes possibilités, différentes combinaisons, différents cadres, ne serait-ce que dans le nombre et dans les personnes qui composent ces commissions-là, à l'échelle de l'établissement, mais plus largement à l'échelle aussi académique. Il n'y a pas là un seul et même modèle. On observe bien des choses très différentes qui peuvent se faire d'un établissement à l'autre, et des choses très différentes aussi qui se font dans la prise de décision finale. Un certain nombre d'établissements peuvent, et d'équipes peuvent avoir le sentiment que malgré un processus de recrutement dans lequel ils sont associés, finalement, la décision revient à l'académie et ne correspond pas toujours au choix qu'ils ont pu formuler. Donc, il y a là des tensions très fortes qui posent la question aussi des contraintes après pour les équipes et de la manière avec laquelle elles peuvent envisager la mise en place de ce dispositif dans les établissements qui sont les leurs. Donc ça, c'est des enjeux importants. Sur les critères d'admission, et donc qui recoupent, donc là j'ai vraiment été d'abord sur le point très formel du recrutement, là sur des points qui révèlent des enjeux plus déterminants, les critères d'admission et le type d'élèves accueillis, d'abord ce qu'on peut observer, c'est qu'on pourrait avoir une vision assez linéaire de non seulement une différenciation entre les établissements, mais dans chaque établissement une politique assez structurée et définitive, alors que ce qu'on observe au contraire, et on est dans une phase de mise en place, il faut bien le rappeler évidemment, c'est une différenciation au sein des établissements eux-mêmes dans ces modalités et dans ces formes de recrutement. On peut pointer au moins trois éléments. D'abord, des établissements où il y a plusieurs phases de recrutement, y compris parce que certains n'est pas forcément à répondre à l'offre dont ils disposaient. Des recrutements aussi ponctuels tout au long de l'année, au fur et à mesure des aléas de la réalité des inscriptions dans l'internat d'excellence, les élèves qui partent, d'autres qui arrivent en cours de route et qui ne suivent pas la même procédure que les premiers, puisque les dispositifs, les commissions, etc., ne sont pas mis en place de la même manière et donc n'ont pas forcément le même profil que les élèves, les premiers élèves recrutés. Et des recrutements aussi qu'on pourrait dire imposés, qui concernent des élèves avec des difficultés sociales, familiales importantes et pour lesquelles, finalement, l'internat d'excellence va faire office de solution de placement, y compris pour des élèves qui peuvent être placés par ailleurs dans des foyers et qui se retrouvent en internat d'excellence sans finalement que les autres que l'ensemble des autres caractéristiques considérées au moins dans les circulaires ne soient forcément présentes. Et donc là aussi et ce non pas de manière exceptionnelle on n'est pas un ou deux élèves mais un certain nombre d'internats pour lesquels une partie du public accueilli s'inscrit dans ce profil d'élèves plutôt. Du coup, ça impose aussi les modes de recrutement, deux approches de l'excellence dont on peut se demander si elles s'articulent ou si elles s'opposent et qui sont, à notre sens, particulièrement structurantes et qui sont un enjeu fort de ce que sont les internats d'excellence et de la manière avec laquelle les équipes les prennent en charge. La première approche, alors vous me pardonnerez, c'est un peu caricatural et limité. L'idée, c'est bien de faire passer l'idée principale dans chacune de ces deux approches. Des recrutements qui seraient au niveau, et là je me positionne du point de vue des équipes, d'un certain nombre d'équipes. Des recrutements pour lesquels l'enjeu serait de recruter de bons élèves qui doivent devenir meilleurs et avec un attachement très fort à ce que l'internat d'excellence devienne aussi une forme de vitrine, et je le dis sans aspect péjoratif, mais une sorte de vitrine forte pour l'établissement, un moyen d'identification très très clair, avec une exigence importante dans le profil scolaire des élèves qui peuvent être recrutés. hein, et avec donc cette ambition finalement de rendre de bons élèves encore meilleurs par les moyens qui sont mis à leur disposition. Et d'autres équipes qui peuvent être sur un profil de recrutement qui rappellerait plutôt la dynamique qu'on retrouvait dans les internats de réussite éducative, avec un enjeu qui serait celui de recruter des élèves en difficulté scolaire, ou au moins qui n'ont pas de très bons résultats, qui ne sont pas considérés comme de bons élèves encore, mais qui semblent avoir les ressources nécessaires à devenir bon, voire très bon, sans forcément non plus viser l'intégration dans des grandes écoles, des niveaux d'excellence qui peuvent être rattachés à cet enjeu-là. Évidemment, d'une équipe à l'autre, le lien entre ces deux entrées-là ne sera pas le même, mais dans les équipes elles-mêmes, il y a un certain nombre d'établissements où il est difficile d'avoir un consensus sur cet enjeu-là. C'est-à-dire qu'on parlait, et ça a été bien dit ce matin, d'un enjeu fort autour d'un projet pédagogique et éducatif lié à l'internat d'excellence, qui certainement doit faire la lumière sur ces entrées-là qui posent et envisagent de manière très différente l'action finalement prioritaire. Est-ce que ce dispositif est un dispositif d'action prioritaire? Et si oui, comment il se situe par rapport à ces enjeux de l'excellence? Et on voit bien que au sein même des équipes, là, il y a des débats dans un certain nombre d'établissements très forts pour savoir si on est plutôt dans une entrée, on va dire, plutôt élitiste, qui vise à recruter les meilleurs et à faire qu'ils soient encore meilleurs, ou sur une dynamique peut-être moins ambitieuse en termes d'après-internat, et qui s'appuie plutôt sur une tradition de l'internat comme outil de gestion aussi de la difficulté scolaire, enfin de gestion spécifique de cette difficulté-là. Voilà en quelques mots, hein, vraiment brossé très, très rapidement, un certain nombre d'enjeux qui se posent autour de la question du recrutement des élèves en internat.
Bonjour à tous, donc je suis Audrey Boulin, doctorante à Paris 5 sous la direction d'Anne Barrer. Alors je vais parler pour l'ensemble de l'équipe et principalement pour l'équipe que je constitue, donc avec Patrick Rayou, Filippo Pironet et Claire Salmon qui n'est pas là aujourd'hui. Alors je vais parler de l'axe vie à l'internat et rapport à l'environnement habituel. Alors, avant de vous parler de la vie à l'internat et du rapport à l'environnement habituel, on va d'abord s'intéresser à l'avant-internat. Alors, pour la majorité des internes, la mise au travail scolaire pour les devoirs était difficile pour différentes raisons, telles que les tâches ménagères et domestiques, les conditions d'hébergement parfois précaires, mais aussi l'influence des pairs et le temps consacré aux loisirs et aux distractions. Alors la scolarité pour eux avant l'entrée à l'internat n'était pas toujours un pôle primordial. Et donc on va se demander, après l'intégration à un internat, est-ce que la scolarité donc a pris l'importance et quelle est la place maintenant accordée donc aux autres thématiques? Alors, nous allons passer donc dans un second temps à la vie à l'internat. Donc, je ne vais pas m'intéresser ici au travail scolaire et aux activités proposées qui ont déjà été énoncées, mais à d'autres thématiques telles que la sociabilité, la culture juvénile et également le rapport aux adultes. Alors, la sociabilité est un pôle très important de la vie en internat. Pour certains des internes, c'est même un des pôles le plus important. En effet, certains déclarent que ce qu'ils préfèrent à l'internat, c'est vivre en communauté, passer du temps avec leurs amis à discuter. Alors, concernant la sociabilité, donc le rapport avec les amis à l'internat. Déjà, il y a une distinction entre le pote avec qui on peut passer du temps à l'internat et le réel ami avec qui on peut se confier. Alors, il est étonnant déjà de savoir que les internes déclarent qu'à l'internat, ils ont au maximum un ou deux amis. Donc des personnes réellement avec qui ils peuvent se confier. Et certains déclarent même qu'ils n'ont pas trouvé d'amis à l'internat, mais ils ont des potes avec qui ils profitent et qui passent du temps libre. Alors, le réseau de sociabilité à l'internat apparaît très complexe, car il y a différents axes. Il y a les amis d'avant, avec qui la plupart des internes gardent contact. Il y a également les amis et les potes de l'internat, mais également les amis et les camarades de l'établissement dans lesquels ils sont scolarisés. On a pu distinguer une certaine hiérarchisation. Alors, en premier, nous retrouvons surtout les amis d'avant et les amis de l'internat, suivent ensuite les potes de l'internat, et en bas de l'échelle, nous retrouvons les camarades dans lesquels les camarades des établissements dans lesquels les internes sont scolarisés. Donc avec eux, il y a le plus souvent peu de contacts, et des fois quasiment aucun de contact. Certains internes déclarent qu'ils se sont sentis rejetés en intégrant l'internat du fait de préjugés liés à leur couleur de peau et à leur origine géographique, comme le fait de venir d'une cité. Donc ça a posé déjà principalement dans l'internat dans lequel nous avons enquêté de grosses difficultés, donc cette question de mixité. Alors, donc face à cette forte prégnance du groupe de pairs, il y a aussi des internes qui déclarent avoir besoin de se sentir seuls. Donc, ils le font en restant dans leur chambre ou en se baladant. Mais certains déclarent avoir donc du mal à retrouver une certaine solitude dont ils ont besoin. Concernant notre second point, donc la culture juvénile, donc la forte prégnance du groupe de pairs a entraîné donc une floraison de la culture juvénile à l'internat. Les internats d'excellence ne parlent pas uniquement de culture scolaire, mais la culture juvénile est vraiment un des pôles importants des internats d'excellence. Nous allons ici distinguer trois points. Donc déjà, la musique. La musique est vraiment un des pôles importants donc dans l'internat dans lequel nous enquêtons. Alors, la musique, elle peut se faire seule pour se couper du groupe des pairs, mais également en collectivité pour partager ses goûts, mais également pour montrer son intégration au groupe de pairs. Donc dans les internats d'excellence, les musiques les plus populaires, dans le sens les plus répandues, sont le rap et le R&B. Et la pratique de l'écoute de la musique s'accompagne souvent de chants et de danse, qui permet de créer des moments assez festifs au sein de l'internat. La salle informatique est également un temps fort de l'internat utilisé lors des temps libres. Alors avec en pratique numéro 1, nous retrouvons Facebook, qui permet de garder contact avec les amis de l'extérieur, mais également de créer des contacts au sein de l'internat. De plus, nous retrouvons YouTube, qui montre la forte prégnance de la musique au sein des internats. Pour finir, certains garçons utilisent l'informatique pour continuer à leur pratique des jeux vidéo qu'ils avaient auparavant. Nous avons également choisi de parler du look. Alors, le look permet l'affirmation de soi, mais aussi l'intégration au groupe de pairs. Alors, certaines filles passent un temps considérable à se maquiller, à choisir sa tenue, donc pour aller pour sortir de leur chambre. Mais ce qui nous a paru intéressant, c'est le port de certaines tenues. Alors, il y a des filles qui optent pour des mini-shirts ou des mini-jupes, donc des tenues qui sont pas toujours appropriées pour la pratique qui va suivre. Et là, ça nous amène à nous interroger. Est-ce qu'on doit utiliser le même règlement dans les internats que dans les établissements scolaires, ou est-ce qu'il faut laisser une plus grande autonomie aux adolescents? Alors, ces questions restent en suspens. Concernant notre troisième point, donc le rapport aux adultes, Tout d'abord, nous avons pu observer dans les discours des internes, nous avons pu remarquer qu'il y avait une forte implication des adultes de l'internat dans le dispositif. Concernant le rapport entre les adultes et les internes, nous avons pu remarquer une forte proximité. Alors en effet, il y a des liens privilégiés qui sont créés entre les internes et les assistants d'éducation, par exemple. Alors cette familiarité va donc à des conséquences positives, comme certains internes vont pouvoir s'en confier, mais il y a également des dérives langagières et comportementales à cette familiarité. Sinon, concernant le rapport aux règles, une certaine distance est prise par certains adolescents. Ils adaptent, par exemple, leurs horaires ou ils adaptent leur circulation. Alors là, nous ne sommes pas dans une spécificité du statut d'interne, mais il y a toujours, même dans les... En fait, nous retrouvons ce qu'on peut remarquer dans des établissements qui ne sont pas internats d'excellence. Alors, pour finir, nous allons parler du rapport à l'environnement habituel. Donc déjà, il est important de noter donc que les internats d'excellence ne sont pas comme les pensionnats du 19e siècle, des endroits clos. L'ouverture sur l'extérieur prend différentes formes, comme la scolarisation dans des établissements extérieurs, la pratique d'activités en dehors de l'internat, mais également l'outil de communication comme les téléphones portables et Facebook, par exemple. Alors, nous nous sommes demandé ce que faisaient les internes durant le week-end, et là, nous retrouvons deux tendances. Alors, d'une part, il y a une partie des internes qui consacrent davantage de temps au travail scolaire que l'an passé. Alors, leur attitude face au travail scolaire s'est modifiée suite à l'entrée à l'internat. Ils répartissent davantage leur temps entre les devoirs et les pratiques que j'énonçais précédemment, comme les sorties avec les amis, la distraction en famille et les tâches ménagères. Mais il y a également, d'autre part, des internes qui déclarent opter pour une logique compensatoire. Donc le discours est le suivant, je travaille à l'internat toute la semaine, donc le week-end, je profite pour faire des occupations autres que les devoirs, donc surtout des sorties entre amis et des loisirs. Donc pour conclure, nous aimerions énoncer un questionnement concernant donc cette seconde tendance. Nous venons donc de voir qu'une partie des internes reprenaient leur habitude passée le week-end. Nous suggérons donc que ces derniers n'ont pas véritablement intériorisé leur métier d'élève. Donc n'étant pas réinvestis à la maison, les règles de l'internat ne sont pas créatrices de sens pour eux. Faut-il un temps d'intégration plus important pour certains élèves pour observer de réels changements? Que vont alors devenir ceux qui quitteront l'internat l'an prochain?